28 février 1985.
Nous allons reprendre ce sixième moment du jugement de sagesse pour découvrir dans l'homme un de ses caractères particuliers vu dans la lumière de la contemplation de Dieu. Si l'être premier est infini dans son être, il ne peut être en mouvement, il est au-delà du mouvement, au-delà de tout devenir, il est immobile, immuable, stable, tandis que toute créature, du fait même qu'elle est limitée, est capable de transformation et de mouvement. Il faut saisir en premier lieu la contemplation de l'immutabilité de Dieu. C'est très important, vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, si vous voyez l'athéisme d'Huxley, pas le grand, le petit, qui dit, en prenant l'idéologie de l'évolution, je dis bien l'idéologie d'évolution, c'est-à-dire en faisant de l'évolution quelque chose d'absolu, si j'ose dire. Mais c'est bien ce qu'il fait, c'est-à-dire de vivre. La vie ne peut se comprendre que dans la lumière de l'évolution. Et c'est en ce sens-là que l'évolution devient absolue. La vie s'identifie à l'évolution. Qui dit vie, dit évolution. La vie ne peut exister qu'à ce niveau-là. Vous voyez, enfin, un petit blocage, si vous voulez, entre vie et vie biologique. Vous vous souvenez, la grande critique qu'avait fait Rostand à propos de Teilhard, au moment où on parlait beaucoup de Teilhard, il y a eu une critique assez véhémente de Rostand en disant « l'évolution est au niveau biologique ». On ne peut pas faire une évolution sur tout. Donc, il ramenait qu'au point de vue scientifique, l'évolution est au niveau biologique, qu'elle ne peut pas se comprendre au niveau physique et qu'elle ne peut pas se comprendre au niveau de l'esprit. Autrement dit, c'est autre chose. Qui dit biologie, dit au niveau, qui dit évolution, dit au niveau biologique. Alors, la tentation, c'est de toujours d'universaliser quelque chose qui est vrai à un certain niveau, de l'universaliser à d'autres niveaux. Alors, William Huxley dit « la vie est évolution ». Si la vie est évolution, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, il est le vivant au-delà de l'évolution. Donc, il ne peut pas exister. C'est exactement le raisonnement qu'il prend. Vous voyez ? Il y a cet a priori que l'évolution, que la vie est évolution par le fait même. Si Dieu existe, il est le premier, il est au-delà de l'évolution, et donc il ne peut pas exister. Parce que vie, être, évolution, il y a le blocage entre les trois, si vous voulez. Normalement, entre être et vie, il y a une distance, une diaphora, une différence. Entre vie et évolution, il y a une autre différence. C'est que la vie est un mode d'exister, une manière d'exister, ce n'est pas d'exister. Et l'évolution, c'est une manière de vivre. Vous voyez, donc c'est la confusion entre ce qu'est l'être, la ratio, je donne ça au point de vue technique, la ratio mentis, et le mode, le modus. Et le modus. La vie est un mode d'être, et je peux saisir la ratio-vité et saisir les différents modes de vie. Si je fais le blocage, je tombe dans ce qu'on appellera une univocité. Il n'y aura plus une vision analogique. La vision analogique consiste toujours à distinguer la raison d'une chose et ses différentes manières d'exister. Alors là, c'est très net. Hein, et pour William Huxley, c'est les trois scientifiques, c'est-à-dire c'est l'évolution qui assume la vie, qui assume l'être. Je dis ça, c'est parce que c'est une confusion qui, dans notre monde d'aujourd'hui, fait partie d'une certaine idéologie. Je peux avoir l'idéologie de l'évolution. Alors l'évolution assume la vie, assume l'être. Et on voit tout sous le point de vue de l'évolution. Bon, si on voit tout sous ce point de vue-là, évidemment, on ne peut pas comprendre. Dieu est immuable dans son être. Je ne dis pas il est immuable dans sa vie. Je dis il est immuable dans son être. L'immutabilité qualifie en premier lieu l'être de Dieu. Et parce qu'il est immuable dans son être, il sera immuable dans sa vie. Et je devrais donc comprendre à partir de là l'immutabilité de Dieu dans sa vie. Et je devrais à partir de là comprendre l'immutabilité de Dieu dans son esprit. Mais c'est toujours à partir de l'être. Oui, c'est très important pour nous, quand nous essayons de contempler le mystère de Dieu, de voir ce qui est en dépendance de sa manière d'exister. Sa manière d'exister, c'est d'exister d'une manière qui est au-delà de tout mouvement. Donc la stabilité absolue. Dieu est l'axe. À partir de quoi je comprends ce que c'est que la stabilité. Il est le roc. Je peux dire à partir de là, et dans ce regard contemplatif, que l'homme, en tant que créature, comprenez bien, l'homme, en tant que créature, est essentiellement mobile. Toute créature, du fait même qu'elle est créature, est mobile. Elle est donc instable. La créature ne peut pas être le roc. Oui. Quand Jésus dit qu'il est le roc, ou que Pierre doit être le roc, vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est en tant qu'uni au Verbe de Dieu, c'est en tant qu'uni au Christ, il est roc. Par nature, il est instable. Par nature, toute créature est instable. L'instabilité de la créature, c'est ce que nous devons essayer de contempler, de le comprendre dans la lumière même de la stabilité de Dieu, comprendre cette instabilité radicale. Quelle est la première instabilité de la créature? La première fêlure de Kierkegaard, hein? La première fêlure de Kierkegaard. Si vous n'étiez pas fêlé, il n'y aurait pas de mobilité en vous. Mais c'est parce que vous êtes fêlé qu'il y a une capacité de mouvement, il y a une capacité de transformation. Et donc, il faut saisir cet aspect premier et fondamental de la mobilité de la créature. Comment se fait-il que la créature est mobile? La mobilité a comme fondement la potentialité. Tout être qui possède une certaine potentialité est capable de mouvement. Parce que le mouvement, c'est le passage d'une détermination à l'autre détermination. Si on n'a pas de potentialité en soi, il n'y a pas de possibilité de changement. Le changement provient toujours radicalement d'une potentialité qui est en nous. Alors, quelle est notre première potentialité comme créature? Notre potentialité radicale comme créature, c'est que notre essence n'est pas notre existence. Ça, c'est la potentialité radicale. Et c'est la fêlure fondamentale. Quand nous, l'essence et l'existence, notre capacité d'être, puisque c'est ça l'essence, notre capacité d'être et notre existence actuelle ne sont pas identiques. Il y a en moi deux choses, ou pas deux choses, mais il y a en moi deux aspects différents, l'aspect de l'essence qui est la détermination, la capacité d'exister, et puis il y a l'exister, l'être en acte. Et donc si l'essence n'est pas l'existence, s'il y a une différence entre les deux, il y a par le fait même cette capacité de transformation au niveau même de mon essence. C'est ce que saint Thomas appelle le vertige du néant. C'est du reste très beau. Vertibile ad nihilum. Il y a un vertige vers le néant. C'est que dans toute créature, donc dans l'homme, il y a une possibilité de ne pas être. C'est la source de l'angoisse métaphysique. Il y a une possibilité de ne pas être. Si vous vous regardez dans la lumière du Créateur, ce n'est pas angoissant. Parce que vous savez que vous êtes tenu par une main plus forte que ce que vous êtes. Et que le Créateur ne peut pas, en raison de sa sagesse, annihiler ce qu'il a fait. Dieu, en tant que créateur, peut, selon sa toute-puissance, annihiler ce qu'il a fait. Il peut faire comme Rouault, brûler ses tableaux. Et Dieu pourrait, très bien, en disant « Vraiment, ce sont des chipies, ces créatures, alors je n'ai plus qu'à les détruire. » Et alors Dieu les détruirait à ce moment-là. Il peut le faire. La toute-puissance de Dieu fait que Dieu peut annihiler tout ce qu'il a fait, puisque tout ce qu'il a fait, il l'a réalisé gratuitement par sa toute-puissance. Mais en raison de sa sagesse, Dieu ne peut pas annihiler ce qu'il a fait. Parce que si nous, de temps en temps, nous avons envie de détruire ce que nous avons fait, c'est parce que ce que nous avons fait n'est pas l'œuvre de la sagesse. Il y a le hasard qui est intervenu entre deux. Alors, parce qu'il y a le hasard qui est envenu entre deux, ça fait des ratés. Celui qui fait une œuvre d'art, n'est-ce pas, parfaitement, elle n'est jamais parfaite. Et donc, elle peut toujours être annihilée. Tandis que Dieu, même si ce qu'il fait n'est jamais parfait, totalement parfait, au niveau métaphysique, provient de sa sagesse. Et en raison de sa sagesse, il ne peut pas la détruire. Donc ça, c'est très important parce que ça fait comprendre tout de suite, vous voyez, selon les traditions religieuses. Les traditions religieuses qui insistent en premier lieu sur la toute-puissance. L'islam. Ont toujours une tentation à cette angoisse fondamentale. Puisque si je n'insiste que sur la toute-puissance, Dieu peut détruire. Et c'est vrai que dans une série de religions primitives, c'est la toute-puissance du Créateur qu'on voit en premier lieu et qu'on met en pleine lumière. Et si on insiste en premier lieu sur la toute-puissance de Dieu et qu'on la met en pleine lumière, le danger, c'est d'arriver justement à cette espèce d'angoisse métaphysique. C'est que je dépends totalement de Dieu, et Dieu pourrait très bien, je ne dis pas selon un caprice, mais Dieu pourrait très bien, parce que je me conduis mal, m'annihiler. Si je regarde alors la sagesse de Dieu, ça représente des traditions religieuses beaucoup plus évoluées, si au-delà de la toute-puissance, je vois la sagesse, alors à ce moment-là, je dis, Dieu ne peut pas annihiler ce qu'il a fait. en raison de sa sagesse. Et alors, en m'appuyant sur la sagesse de Dieu, je n'ai plus ce vertige. Mais c'est en s'appuyant sur la sagesse de Dieu. Si je ne vois plus le point de vue de la sagesse, si je ne regarde plus le regard de la sagesse de Dieu ni de la toute-puissance de Dieu, et que je regarde la créature en elle-même, j'aboutirai à dire dans la créature le néant est avant l'être. Catherine de Sienne le disait dans une vision mystique, le néant est avant l'être. Dans la créature, le néant est avant l'être. Alors si vous supprimez la dépendance à l'égard du Créateur, ça devient très ennuyeux que le néant est avant l'être. Parce qu'alors nous sommes ordonnés au néant. Et un jour ou l'autre, tout disparaîtra. La vision marxiste, du moins une des interprétations de la vision marxiste. Il y en a plusieurs. Mais au moins dans une des interprétations, nécessairement un jour, tout doit disparaître. C'est le néant qui prime. Et donc, un jour ou l'autre, tout doit disparaître. Alors, ça, c'est très important dans cette vision, vous voyez, dans cette vision de sagesse. Il faut rendre compte de certains aspects des idéologies modernes et qui proviennent toutes, d'une laïcisation d'un jugement de sagesse. Ce serait très... Au terme, on le fera, si vous voulez. On essaiera de le faire. Un petit tableau. De voir les laïcisations de ces jugements de sagesse. Ça aboutit nécessairement à des impasses. Alors, vous avez là cette angoisse métaphysique, ce vertige vers le néant. Le vertige vers le néant provient que, dans la créature, le néant est avant l'être. C'est parfaitement vrai. Dans une vision de sagesse, comprenez bien, dans une vision de sagesse, c'est parfaitement vrai de dire que le néant est avant l'être. Nous disons que l'acte créateur de Dieu est ex nihilo, à partir de rien. Dieu m'a créé à partir de rien. Il a créé mon âme à partir de rien. Pas mon corps, puisqu'il ne l'a pas créé au sens absolu. Mais mon âme, il l'a créé à partir de rien. Donc, si je quitte la vision de sagesse et que je garde la conclusion, je dirais le non-être est avant l'être pour moi. Si le non-être est avant l'être pour moi, nécessairement un jour, le non-être absorbera l'être. D'où l'angoisse métaphysique, ce vertibile ad nihilum, ce vertige du néant. Il faut le sentir, ce vertige du néant. Il ne faut pas aller trop loin, mais il faut le sentir, ce vertige du néant. Il faut s'approcher le plus possible, sentir. Oui, c'est vrai. Et au fond, ce vertige du néant, cette angoisse du néant disparaît parce que je suis dans les mains du Créateur. Il y a un au-delà de mon être. Et l'au-delà de mon être, c'est le regard de Dieu sur moi, c'est la toute-puissance de Dieu et c'est sa sagesse. In manus tuas. Ça donne le sens profond d'être dans les mains de Dieu. Et dans les mains de Dieu, c'est d'être au-delà de ce vertige du néant. Mais si justement on n'a pas le sens de Dieu et qu'on reste uniquement dans une vision affectivement athée, on comprend très bien comment il peut y avoir un vertige métaphysique, une espèce d'angoisse métaphysique, parce que le néant est avant l'être. Oui. Donc, ceci, c'est très important pour nous, parce qu'il s'agit de saisir ces points de vue-là, de le comprendre. Donc, première source de changement, une source radicale, c'est que dans la créature, cette capacité d'être, mon essence, est ordonnée à l'essai et elle implique une capacité du non-être. Je ne dis pas qu'elle est ordonnée au non-être, mais elle implique une capacité vers le non-être. Et le non-être, d'une certaine manière, est premier, et l'essai est second. Parce que l'essence laissée à elle-même n'existe pas. Pour que l'essence existe, il faut l'intervention d'une cause efficiente. Tandis que l'essence laissée à elle-même n'existe pas. Et c'est en ce sens-là que je peux dire, vous voyez, que l'essence est ordonnée au non-être. Alors, il faut bien le comprendre, ce n'est pas du tout un ordre positif, c'est un ordre logique. Mais si la logique devient la métaphysique, vous voyez tout de suite, c'est un ordre logique. L'essence implique le non-être. Première fêlure métaphysique qui me fait comprendre comment, dans mon être, il y a une instabilité radicale. Au plus intime de mon être, il y a une instabilité radicale. Je suis capable d'un changement radical. Et je dois le dire, puisque je peux être annihilé. C'est l'épée de Damoclès au point de vue métaphysique. Je peux être annihilé. Si je regarde la sagesse de Dieu, je dis non. Mais la possibilité demeure, puisque de fait, mon essence est distincte de mon essence est distincte de mon essai. Donc la possibilité demeure, la possibilité logique demeure. Pas la possibilité existentielle, mais la possibilité logique, puisque l'essence implique le non-être. C'est la fêlure la plus radicale. Le non-être peut monter jusqu'au plus intime de mon être. C'est en ce sens-là que les fumées, comprenez bien, métaphoriquement, les fumées du néant peuvent à certains moments assombrir tout mon être. Parce que de fait, le non-être est présent logiquement. C'est très extraordinaire, ça. Et il faut le saisir dans une vision de sagesse. Il faut le saisir que le non-être est présent plus intimement. Et il enveloppe, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il est premier. Donc, il enveloppe mon essence. C'est ce qui faisait dire à Aristote, cette petite parole très curieuse, selon les théologiens, le non-être est avant l'être. C'est ça l'explication. Selon les théologiens, selon les premiers théologiens, selon ces théologiens obscurs, parce que pour Aristote, c'est des théologiens obscurs, selon ces théologiens obscurs, les théologiens sont toujours obscurs, n'est-ce pas ? Pour le philosophe, ils sont toujours dans l'obscurité, les théologiens, parce qu'ils sont dans le mystère, donc ils sont toujours dans l'obscurité. Selon ces premiers théologiens obscurs, le non-être est avant l'être, et le non-être enveloppe l'être. Il y a quelque chose comme ça qui reste dans Heidegger. Il ne faut pas l'oublier. Puisque Heidegger rappelle toute la grande vision du théologien que la création est ex nihilo. Alors, il implique le non-être avant l'être. Alors, il y a le devenir qui est la donnée immédiate, puis il y a l'abîme du non-être, et dans le non-être, l'être apparaît. Donc c'est le non-être qui enveloppe l'être. Vous voyez, dans l'ordre du devenir, ne l'oublions pas, dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte. La puissance est antérieure à l'acte, dans l'ordre du devenir. Or ici, il s'agit d'un devenir fondamental et premier, un devenir substantiel. Le devenir qui est l'apparition à l'exister. À un moment donné, j'ai existé, donc il y a une apparition à l'exister, et ce devenir substantiel fait que le non-être est antérieur à l'être. Il est antérieur à l'être dans le sens le plus profond, puisqu'il y a un devenir, et dans tout devenir, le non-être est avant l'être. Donc il y a là cette fêlure, cette crevasse métaphysique qui fait que mon être apparaît sur le non-être. Et par le fait même, il a une instabilité radicale. Vous voyez, c'est ça qui fait que certains, je souligne toujours ce point de vue-là, qui fait que certains disent « la métaphysique est impossible ». Et vous voyez pourquoi ? Parce qu'au fond, je ne saisis qu'un être fêlé. Et donc, je ne saisis que le non-être. L'être apparaît dans le non-être. Je ne saisis que le non-être. Je ne saisis pas l'être. Alors, c'est là où il faut comprendre que si, au point de vue génétique, le non-être est avant, au point de vue de la réalité qui existe comme telle, l'être est avant le non-être. Et là, je dis bien ça, c'est parce que c'est là où on saisit ces choses-là, qui sont très actuelles, c'est tous les problèmes d'aujourd'hui, ça. C'est tous les problèmes, à partir de Heidegger, on peut dire que c'est les grands problèmes d'aujourd'hui. Et c'est très important de saisir ce qu'il y a de juste, ce qu'il y a de vrai, et en même temps saisir qu'on ne peut pas demeurer dans cette perspective. Alors, je reprends cette perspective parce que je crois qu'elle est très importante pour nous. Parce qu'autrement, on est quelquefois coincé. Et c'est très vrai que quand on regarde que le non-être enveloppe l'essence, c'est vrai, il est premier. Il est premier parce que je suis dans un ordre de vie. Dans un devenir fondamental, dans un devenir substantiel. Enfin, devenir au niveau de l'être. Et donc, le non-être est avant l'être. La puissance est avant l'acte. Et si donc, dans la créature, et tout ce que je vois est créature, donc dans l'homme, il y a cette espèce de poids, et cette espèce de poids logique, hein, comprenons bien, pas existentiel, logique, du non-être avant l'être. Alors, je ne peux donc jamais atteindre l'être. Puisque le non-être enveloppe l'être. Comment puis-je, par le non-être, atteindre l'être ? Si, de fait, cette essence n'existait pas, ce serait très vrai. Mais cette essence existe, il y a l'essai, l'acte d'être. Il faut donc saisir l'acte d'être pour saisir l'essence et saisir le non-être. Vous voyez la chose, au point de vue logique, c'est vrai qu'il y a là un problème qui est terrible, qu'on doit saisir parce que c'est le problème de Marcion, c'est le problème d'une quantité d'aujourd'hui heideggeriens, à la suite de Heidegger. Et ils sont enfermés là-dedans. Il faut respecter cette espèce de prison dans laquelle ils sont. C'est la prison du non-être. Et c'est le primat du non-être. Et ce primat du non-être est une conséquence directe d'une vision théologique. Donc je ramène la parole d'Aristote. Les premiers théologiens disaient que le néant est avant l'être. C'est une très belle parole, ça, qu'il faut réfléchir souvent, parce qu'elle est très forte. Les théologiens disent toujours, parce que les théologiens parlent du ex nihilo. La création se comprend à partir ex nihilo. Alors il s'agit de bien comprendre. Hein. Les théologiens qui ont oublié Dieu disent que le non-être est avant l'être. Il faut ajouter ça à la parole d'Aristote. Hein. Les théologiens qui ont oublié Dieu, ça arrive, il y a des théologiens qui oublient Dieu. Alors, les théologiens qui ont oublié Dieu sont des orphelins. Alors, l'orphelin dit que le non-être est avant l'être. Et je crois que ce serait vrai, ça. Tous les orphelins disent que le non-être est avant l'être. Et l'orphelin premier, c'est le théologien qui a oublié Dieu et qui ne sait plus. Alors, parce qu'il a oublié Dieu, il est enveloppé du non-être. Et quand vous êtes enveloppé du non-être, vous n'avez rien pour sortir du non-être. Parce que le non-être ne permet pas de sortir du non-être. C'est le labyrinthe, le plus absolu qui soit. C'est le labyrinthe. Vous ne pouvez absolument pas sortir du non-être. Alors, il faut comprendre à ce moment-là que c'est le théologien qui a oublié Dieu. Le théologien véritable sait que tout se comprend à partir de la création. Si tout se comprend à partir de la création, vous regardez l'existence, l'essence. Oui, enveloppée du non-être, c'est très vrai. Mais cette essence, Dieu lui donne l'existence. Et c'est par une cause efficiente qu'est la création. Dieu lui donne l'existence. Dieu me donne actuellement mon existence. C'est ce don actuel du Créateur. Si je me coupe du Créateur, je ne peux le faire que par la pensée. Je ne peux le faire que par la pensée. Mais par la pensée, je peux le faire. Je peux me couper du Créateur. Et donc, je ne peux regarder que la créature. En oubliant que c'est une créature, en la regardant elle-même. Et alors, je dis à ce moment-là, le non-être avant l'être. Mais si je reviens à l'acte créateur de Dieu, je vois que l'essence existe. Il y a l'acte d'être qui m'est donné actuellement. Cet acte d'être, je suis capable de le saisir. Jugement d'existence. Vous voyez que le jugement d'existence est la seule manière de sortir du primat du non-être. Parce que je peux dire cette essence, mon essence existe, j'existe actuellement. Eh bien, c'est mon acte, c'est l'acte d'être actuel, mon exister, qui est ma seule manière de rejoindre l'être. Puisque c'est l'acte d'être. Et donc, de dépasser le primat du non-être. Vous voyez, tout ce qui est autour de ce premier moment du jugement de sagesse, c'est quand même très... Pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important et très intéressant. Parce que c'est la métaphysique du devenir, hein, si j'ose dire. C'est pas la métaphysique, dit que c'est le jugement de sagesse du devenir. Il faut aller jusque-là pour saisir ce que c'est que l'instabilité de la créature. Elle est radicalement brisée, fêlée. Il y a cette rupture entre essence et existence. C'est ça qui est extraordinaire, qui fait qu'il y a une instabilité profonde. Alors si je reste dans le conditionnement de la créature, si je reste dans le conditionnement de ce que je suis, je ne peux pas découvrir l'acte d'être. Je découvre le primat du non-être. Parce que ça, c'est le conditionnement propre de la créature. Le conditionnement propre de la créature, c'est que le non-être est avant l'être. Ça, c'est le conditionnement propre de la créature. C'est la condition propre de la créature. Alors, vous comprenez que si je regarde la réalité comme une créature, je suis enferré, je n'arrive pas. Parce que c'est le non-être qui est avant l'être. Seconde fêlure. C'est important de voir toutes les fêlures. Hein. Alors, il n'y a qu'une seule colle, vous voyez, qui permet de réparer les fêlures. Hein. C'est la création. C'est l'acte créateur de Dieu qui fait le chemin entre essence et acte. C'est ça la merveille de l'acte créateur. L'acte créateur fait que je suis. J'existe dans mon essence possible, dans ma capacité de non-être. Mais c'est la victoire de l'être, de l'acte d'être, sur le non-être. On pourrait définir comme ça l'acte créateur, de cette manière-là. Mais c'est cette victoire de l'essai sur la possibilité à l'égard du néant. Seconde fêlure métaphysique. Seconde fêlure dans l'ordre de la sagesse. c'est la distance qui existe entre l'être et la vie. C'est la distance qui existe entre les deux. Si l'être et la vie sont adéquats, sont identiques, il n'y a pas de possibilité de voir le devenir de l'opération vitale. Vous avez un devenir substantiel, vous avez ensuite un devenir vital. Alors, il faut comprendre les possibilités de ce devenir substantiel, la distinction de l'essence et de l'exister, la possibilité de ce devenir substantiel. La possibilité de ce devenir substantiel, c'est que ce qui est en moi n'est pas le vivant. Distinction entre être et vie. Dans toute créature, il y a une distinction entre être et vie. Et parce qu'il y a une distinction entre être et, être vie, il faut que le vivant rejoigne l'être par son opération vitale. C'est le devenir vital, donc l'opération vitale, si vous voulez, qui implique un devenir. C'est l'opération vitale qui est nécessaire parce qu'il y a une distinction entre être et vie. Alors ceci fait comprendre comment le vivant créé nécessairement vit dans un devenir. Dans un devenir qui implique une croissance, qui implique une altération, qui implique une procréation. C'est tous les devenirs, toutes les opérations vitales. Toutes les opérations vitales, fondamentalement, existe à cause de la distinction de l'être et de la vie. Je vais essayer d'expliquer pour que vous voyez bien. Dans la lumière de Dieu, ou plus exactement en Dieu, la vie et l'être ne font qu'un. Dieu est sa vie. Et la vie de Dieu est son être. C'est pour ça qu'en Dieu, la vie est elle-même immuable. La vie est au-delà de tout devenir, de tout changement. Elle est absolument immuable parce que, justement, son être est immuable, sa vie l'est, parce que sa vie ne fait qu'un avec son être. Tandis qu'en nous, il y a une distinction entre notre être et notre vie. Et notre vie va être dans l'immanence des opérations vitales. Notre vie va impliquer un changement, une capacité de changement, parce que nous ne sommes pas la vie substantielle. Notre vie est participée. Notre vie est reçue. Elle est reçue autrement que laissée, mais elle est quand même reçue, elle est participée. Si notre vie est participée, elle est donc dépendante. Et notre vie n'implique pas l'union à notre fin. Le vivant doit rejoindre sa fin. Il doit rejoindre sa source. Il y a donc en lui une nécessité d'opération vitale, parce que c'est une vie participée. Ce n'est pas une vie substantielle. La vie substantielle, c'est lorsque l'être et la vie ne font qu'un. Et lorsque l'être et la vie ne font qu'un, le vivant possède en lui-même sa propre finalité. Il est sa fin, sa propre fin. Tandis qu'au contraire, lorsque le vivant vit d'une vie participée, c'est-à-dire distincte de son être, qui n'est pas son être, le vivant doit donc nécessairement tendre vers sa fin et essayer de l'acquérir. Parce qu'il est une vie participée, donc une vie qui est dans la multiplicité. Et cette multiplicité, elle se réalise à travers ses opérations vitales. Nous avons donc là, je crois, l'obligation de comprendre que le vivant implique le devenir. Et nous fondons le point de vue de l'opération vitale impliquant un devenir en fonction du fait, en fonction que dans la créature, la vie n'est pas l'être. Parce que dans l'homme, ma vie n'est pas mon être. C'est du reste pour ça qu'il y a une possibilité de la mort. Il ne faut pas l'oublier. C'est la distance qui existe entre mon être et ma vie qui explique la possibilité de la mort. Ça explique la possibilité, donc, du mouvement de destruction. Il y avait ici la possibilité de l'annihilation. Ici, c'est la mort. L'annihilation n'est pas la mort. L'annihilation, c'est face à la sagesse de Dieu. C'est face, plus exactement, face à la toute-puissance de Dieu. L'annihilation est extrinsèque à moi, tandis que la mort est intrinsèque. C'est pour ça que la véritable angoisse ne provient pas de l'annihilation, mais de la mort. Ce que disent tous les psychologues. Si la mort n'existait pas, il n'y aurait pas d'angoisse. Tandis que l'angoisse est présente en moi parce que justement la mort est toujours possible. Je peux toujours mourir. Je porte la mort en moi, n'est-ce pas ? Virtuellement, heureusement. Mais je la porte en moi. La mort est présente. Exactement comme le non-être est présent dans les sens, vous voyez ? Il y a une espèce de... C'est pas la même présence. Puisque le non-être est présent dans les sens, logiquement. Tandis que je dois dire que la mort est présente virtuellement dans le vivant. Pas logiquement, mais virtuellement. Et vous comprenez pourquoi le non-être est présent dans les sens logiquement, parce que pour expliquer le primat du non-être sur les sens, il faut faire appel à une cause extrinsèque. Tandis qu'au contraire, pour exprimer la capacité de mort qui est en moi, il ne faut pas faire appel à une cause extrinsèque. Il faut tout simplement faire appel à la distinction qui existe en moi entre la vie et mon être. Et ça, je le porte en moi. Je porte en moi cette distinction entre l'être et ma vie. Puisqu'il y a distinction entre être et vie, je n'atteins pas ma fin, j'y tends toujours. Et parce que je tends vers ma fin, je peux très bien la manquer. Il peut donc y avoir en moi des possibilités de ne pas atteindre ma fin. Et donc une possibilité de destruction. Puisque ne pas atteindre sa fin pour le vivant, c'est justement la possibilité de la corruption. La corruption, c'est de ne pas atteindre sa fin, c'est de se replier sur soi-même, c'est ce repliement. Donc, la première raison pour laquelle la mort existe, c'est la distance qui existe entre l'être et la vie dans la créature. La seconde raison, c'est que cette vie va impliquer la matière. C'est la seconde raison. La première raison, c'est parce que ma vie n'est pas l'être. Alors la mort peut exister, c'est-à-dire la mort prise au sens de la sagesse, c'est-à-dire la rupture. Hein. La rupture, une rupture entre le lien qui existe entre l'être et la vie. Il peut toujours y avoir une rupture puisqu'il y a une distinction réelle entre les deux. Donc il peut y avoir une rupture, c'est que la vie peut très bien ne plus être avec toi comme maître. Parce que la vie ne possède pas sa fin. Donc elle ne possède pas sa fin, elle n'est pas adéquate à l'être, et elle peut très bien ne pas l'atteindre. Et donc elle peut se replier sur elle-même, et alors être dans un état de corruption. Et la seconde raison, c'est que cette vie induit la matière. Donc je crois qu'il faut essayer de saisir, dans une vision de sagesse, le pourquoi du devenir vital. Alors, à partir de ce devenir vital, on pourrait se poser la question de l'évolution. Et ce serait très intéressant. L'évolution est-elle possible dans une vision de sagesse? Et comment l'évolution est-elle possible dans une vision de sagesse? Le devenir vital provient de la distance qui existe entre l'être et la vie.
Biologie naturelle.